Paula,
Vin et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Auditeurs et auditrices, lecteurs et lectrices, soyez les bienvenus dans ce cinquième chapitre du tome 3 de Polar Vin et Compagnie. Je me serais bien senti esselé dans ce studio si ce n'était la présence de Nico, toujours fidèle à Polar Vin et Compagnie, et surtout lecteur assidu de Polar et de Romans Noirs.
Salut William.
Salut Nico. Alors ça tombe bien puisque même s'ils ne sont pas physiquement présents, vous entendrez Guy et Dominique pour un point sur les ateliers jeux d'écriture qui ont débuté le 29 novembre dernier. Puis Florent, Nicolas, Zoé et Lionel vous présenteront les 5 romans en lice pour le prix Robin Cook 2026. Nous retrouverons bien sûr les rubriques habituelles musique et vin et terminerons, comme depuis notre rentrée, par la lecture d'une nouvelle. Aujourd'hui, c'est Suzanne Latini qui nous vient d'Outre-Quiévrain. Et oui, ce concours devient international. Il y avait aussi un candidat allemand qui lira sa propre nouvelle « Méfiez-vous des cris d'Astra ». J'en tremble déjà. Alors Guy, ces ateliers d'écriture, où ça en est ?
Ça y est, ça a démarré. Nous avons eu un premier atelier le 22 novembre. Nous avons eu un suivant le 29 novembre où des beaux textes sont sortis. Et un travail d'une bonne dizaine d'apprentis écrivains ou d'écrivains. Face à succès, nous avons prévu dans un nouvel atelier le 20 décembre à 10h au Créa. Et un autre atelier qui se tiendra le 10 janvier à 10h au Créa de Millau aussi. Bien entendu, les ateliers sont ouverts à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent s'essayer à l'écriture peuvent venir pour une bonne ambiance. Il suffira d'adhérer à l'association pour pouvoir participer à tous ces ateliers au cours de l'année.
Quand on avait présenté ces ateliers d'écriture, on avait parlé d'une sorte de fonctionnement en autogestion. Ça fonctionne bien ?
Pour le moment, nous avons tenu dans ce cadre-là un seul atelier qu'on peut plutôt appeler jeu d'écriture. Je pense que Dominique, qui a participé à ce premier atelier, peut en dire un mot.
Ben, c'était excellent, c'était super. Enfin, génial aussi d'avoir l'ambiance de tous ces gens qui écrivent, qui sont sérieux. Et puis, on a fait un texte avec contraintes. Alors, c'était quoi les contraintes ? Je me souviens plus, il y avait un personnage et tout ça. Et chacun, en fait, on marquait son personnage, on marquait les circonstances, les motivations, etc., etc. Et chacun, en fait, on piochait on mélangeait, on prenait ceux des autres. Et ça donnait des résultats très cocasses.
Bon, c'est assez confus. Alors toi, par exemple, t'étais tombé sur quoi ?
C'était une histoire de jalousie pour un adolescent de 14 ans. Première soirée d'alcool. C'était ça, la contrainte.
Et ensuite, il y a une espèce d'autocritique. Comment ça se passe pour évaluer ?
Il y a une lecture croisée de tous les textes et une critique bienveillante sur le travail qui a été fourni, avec ensuite la possibilité de recoucher sur le papier, retravailler ces textes pour les produire sur notre blog et qu'ils soient à disposition de tout le monde avec les contraintes, bien entendu. Parce que la contrainte joue pour beaucoup. Parce qu'ici, nous avons un candidat aussi et un participant qui a un peu de vie, c'est dans sa façon de mettre des phrases, parce qu'elles sont pratiquement difficiles à travailler. Il y avait l'histoire de clown psychédélique, non ?
Psychédélique, oui. Et alors ? Une pluie de grenouilles, un orage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, la simonie, le commerce des objets du culte. Enfin, ce genre de thème, voilà. Tant que contrainte, un peu pour amuser le terrain.
On rappelle juste le prochain rendez-vous ?
Le prochain rendez-vous sera donc le 20 décembre à 10h au Créa pour un atelier d'écriture qui se tiendra de 10h à 12h30 maximum. Atelier qui est plutôt un nouveau jeu d'écriture.
Bah merci Guy.
Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire.
Le prix Robin Cook 2026, c'est parti. Je rappelle que l'association Cap Polar Sud Aveyron a fait prendre un certain virage à ce prix en lui donnant une spécificité, celle de couronner un premier roman, les objectifs étant de faire découvrir aux lecteurs et lectrices aveyronnais de nouveaux talents et de permettre justement à ces derniers d'être lus. Alors je rappelle les 5 romans en lice, Étincelle rebelle de Makodou Atolodé, paru chez Gallimard, Les Sols de Mathilde Bosseau, paru chez Seuil, Les Bouchères de Sophie Demange chez Iconoclaste, Descente de liste de Jean-Marie Légoni aux éditions du Rouergue et Sans Éden de Maya Thirier chez Emmanuel Collat. Ben on vous écoute, messieurs et madame.
Bonjour, alors moi c'est Florent et j'ai lu le roman de Makodou Atolodé, Étincelle rebelle, édité chez Gallimard dans la prestigieuse série noire. Alors, Makodou Atolodé, c'est un jeune primo-romancier, né à Dakar à la fin du siècle dernier, trentenaire, titulaire d'un diplôme d'ingénieur acquis à Rennes. Et c'est dans la capitale bretonne qu'aujourd'hui il vit, il travaille, paye ses impôts et pratique la capoeira. C'est aussi en partie en France et au Sénégal qu'il a écrit donc son premier polar, Étincelle rebelle. Alors dans ce roman, Makodou Atolodé nous raconte les aventures de Gabriel Latir Faye, un jeune officier de police qui, au début de cette histoire, donc, a réussi à arrêter un trafiquant de drogue après une longue enquête. Ce trafiquant, suite à des pressions politiques, est rapidement relâché et l'inspecteur Faye, quant à lui, est rapidement muté en Casamance. Il y rencontre une jeune et téméraire journaliste, Hagen, c'est son prénom. Hagen va lui faire découvrir les réalités d'un territoire méconnu, un territoire où le clan secret des chasseurs mené par Elinkin s'oppose aux trafiquants et à une armée en partie corrompue, et où les hommes politiques ne sont jamais loin. Au cœur de cette croisade contre la corruption, l'armée, les sécessionnistes, les clans de chasseurs et une curieuse panthère. Voilà donc une nouvelle voie prometteuse du polar africain francophone que je vous conseille de lire dans le cadre du prix Robin Cook du premier polar. Mathilde Bosseau est l'auteur de « Les Saules », édité au Seuil. C'est son premier roman polar rural. Qui est Mathilde Bosseau ? Bretonne de naissance, elle a passé son enfance au cœur d'un territoire rural, proche de Lamballe, en Bretagne donc, dans la ferme de ses parents. Aujourd'hui, elle enseigne le français au collège à Angers, après être passée par le 93. C'est donc dans la douceur angevine qu'elle a commis Les Saules, une histoire pourtant on ne peut plus âpre. Allongée au bord de la rivière, cachée par des saules pleureurs, Marie, 17 ans, semble paisible, endormie, ce que démentent les marques sombres sur son cou. Sa mort brutale ébranle toute la communauté et surtout Marguerite, une petite fille solitaire que tous croient simple d'esprit. Ses parents sont peu enclins à manifester leur affection. Livrée à elle-même, maltraitée à l'école, elle aime se réfugier au bord de la rivière sous les saules. Cette nuit-là, Marguerite a vu quelque chose. Elle voudrait bien aider Marie, mais voilà, Marguerite ne parle pas, ou très peu. Mutique derrière sa chevelure sale et emmêlée, elle observe l'agitation des adultes, gendarmes et habitants ensemble, qui mènent l'enquête. Alors comment discerner la vérité parmi les rumeurs, les rivalités familiales et les rancœurs tissées de longue date ? À vous de le découvrir en lisant Les Saules de Mathilde Bosseau, sélection cette année pour le prix Robin Cook du premier polar.
Alors moi c'est Nicolas et j'ai lu Les Bouchères de Sophie Demange, paru aux éditions de l'Iconoclaste. Sophie Domange est née à Rouen en 1983 et après ses études, elle est partie voyager en Inde et au Mexique notamment, où elle a été enseignante, actrice de théâtre, serveuse ou encore consultante pour des ONG. Et de retour en France, elle s'est engagée dans le social pour le Secours Populaire et Médecins du Monde, puis dans la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, elle travaille dans un établissement médico-social où elle est confrontée aux violences faites aux femmes et aux enfants. Son roman, Les Bouchères, nous parle d'un quartier bourgeois de Rouen dans lequel des jeunes femmes vont reprendre une boucherie. Et alors que le bruit des couteaux se fait entendre, on entend aussi derrière les ragots qui ciblent ces femmes un peu trop libres, un peu trop maîtresses de leur destin. Et alors que des notables disparaissent dans le quartier, on va commencer à les montrer du doigt. C'est un roman explosif, assez jubilatoire, dans lequel la femme est au centre de toutes les attentions.
Bon, moi je suis Lionel et je vais vous présenter un bouquin qui est en lice pour le prix Robin Cook. La première phrase est d'ailleurs de l'auteur lui-même. Il se décrit comme cela. Jardinier incompétent, bricoleur dangereux et élu incompris de son village de l'Ouest lyonnais, Jean-Marie Legoni voue logiquement sa retraite à l'écriture. Descente de liste, son premier roman, paru en février 2025, dans la collection Rouergue Noire, nous entraîne dans une enquête menée tambour battant par une gendarmette surqualifiée pour ce qui apparaît au départ comme une simple vérification des causes du décès d'un candidat à une élection locale dans une banlieue lyonnaise. La victime est un ancien cadre d'une base de défense aérienne de l'OTAN située sur les territoires de la commune. Des doutes sur les circonstances de son décès commencent à s'immiscer dans l'esprit de l'enquêteuse. Rivalité politique, espionnage... Rudy Meyer s'engage dans un écheveau qu'il faudra démêler dans un monde périurbain auquel ne l'ont pas habitué ses précédentes missions en Afrique. Par surcroît, sa personnalité fonceuse, sa couleur de peau ainsi que sa sexualité légèrement compulsive ne vont pas aider à faire de cette enquête un long fleuve tranquille. Mené dans un style et une précision ciselée, accompagné d'un humour jouissif, ce roman extrêmement bien documenté sur les mondes dans lesquels se situe son action ne manquera pas de vous faire passer un très bon moment de lecture.
Bonjour, je suis Zoé et je vais vous parler aujourd'hui du premier roman de Maya Thirié, Sans Éden. Maya est originaire de Montpellier. Elle a longtemps travaillé au Centre National du Livre, à la Commission de la Vie Littéraire. Elle a beaucoup écrit pour le cinéma et a réalisé plusieurs courts et moyens métrages. Sans Éden est son premier roman publié aux éditions Emmanuel Colas. Donc en plein confinement, Gabriel et son fils Tom partent à la campagne à la demande d'Éden, l'ex-femme de Gabriel, dont il est encore fou amoureux. Peu à peu, des choses bougent dans la maison, des pleurs, des bruits se font entendre. Folie ou fantôme, on ne sait jamais vraiment. Des voisins, tour à tour rassurants puis inquiétants, viennent habiter les scènes. Et Éden qui ne vient pas, qui ne répond plus. C'est un magistral huis clos à ciel ouvert, où l'autrice Maya Thirié joue avec les codes littéraires entre roman noir, tragicomédie et roman policier.
À vous maintenant de vous faire une idée sur chacun de ces romans et sans attendre qu'ils soient disponibles dans les médiathèques partenaires du prix Robin Cook, vous pouvez les offrir ou vous les faire offrir pour Noël.
Que j'éjacule, je cours contre la manche, je cours mais je recule.
Cet automne a été très, comment dire, québécois, avec Louise Oligny, puis Hélène Faradji. Nous continuons avec le morceau que vous venez d'écouter, Montréal moins 40 par le groupe Malajube, une proposition d'Hélène Faradji. Hélène qui nous avait conseillé un vin, rubrique que nous n'avons pas pu écouter dans notre chapitre 4, car déjà très chargé. Voici donc le choix d'Hélène, un indice, elle est originaire d'Alsace.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Nous sommes avec Céline Meyer. Bonjour Céline.
Bonjour à tous.
Donc Meyer, c'est le nom. Le nom du domaine, c'est Jos Meyer. Exactement. Il y a une explication?
Oui, bah, y a une explication à tout. Hein. Donc oui, effectivement, notre nom de famille, c'est Meyer, mais y a beaucoup de Meyer en Alsace. Hein. C'est mon grand-père qui a décidé de prendre les trois premières lettres du prénom de son père, qui s'était appelé Joseph, et de créer la marque Jos Meyer.
Ça voilà. Fait combien de générations?
Bah, nous, on représente la cinquième génération. Ça commence à faire long. C'est le domaine a été créé en 1854.
Je vous appelle parce que Hélène Faradji, qui est autrice, qui a écrit La Corde Blanche, un roman dont on a parlé dans notre numéro précédent,
oui. Nous
a dit, quand on lui a posé la question de nous proposer un vin qui permettrait de mieux apprécier son roman, elle nous a dit un vin un peu sec, mais qui a de la rondeur quand même, pas trop agressif, une touche de douceur, mais qui réveille un peu. Et comme elle vient d'Alsace, elle nous a parlé du Pinot Blanc. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa proposition?
C'est une très bonne définition. Hein. C'est vrai que le Pinot Blanc, c'est un cépage qui a toujours un petit côté espiègle. Cépage qui est beaucoup sur la spontanéité. Nous, effectivement, il est sec. C'est un vin qui a de l'énergie, mais qui a également de la légèreté. C'est un bon compagnon pour des apéritifs, ou pour une cuisine sur des salades. Voilà, c'est vrai que c'est un vin qui allie la fraîcheur et une pointe de tendresse. Mais surtout un caractère espiègle, ouais.
Alors, on reviendra parce que vous proposez, j'imagine, d'autres vins. J'ai regardé votre site et j'ai trouvé une phrase qui m'a plu parce que la lumière ne s'apprivoise pas, mais elle peut se partager. J'ai presque envie de dire comme le vin.
Ah oui, mais alors ça, c'est pas de moi, j'avoue, hein.
C'est
Virginia Woolf.
Votre site est quand même très poétique, je trouve. Il y a pas mal de phrases signées Céline Meyer. Voilà.
Oui, parce que moi, j'étais à la base, je suis quelqu'un de très littéraire. Hein. J'ai travaillé en librairie et c'est vrai que les livres, c'est des compagnons de vie. Et j'aime bien picorer des phrases et j'aime bien les noter et j'aime bien m'en inspirer. Donc c'est vrai que les livres, l'art, on avance avec la culture. Hein. On a envie de faire partager ces choses-là avec nos clients. C'est pas que du vin, on travaille avec des artistes pour les étiquettes. Et c'est vrai que moi, d'avoir des phrases, des belles phrases, je trouve que c'est un côté très motivant et très inspirant. Donc j'aime bien m'entourer de phrases fortes et voilà.
Voilà, donc ça c'est pour la rubrique Le Petit Monde de Jos Meyer sur votre site. Alors Cécile, donc vous êtes avec votre sœur Isabelle.
Oui, tout à fait.
Il y a la maman je crois qui est aussi dans le coup. Quand j'ai appelé pour vous joindre, j'ai eu une comptable. Mais j'ai envie de vous demander, dans le Petit Monde de Jos Meyer, où sont les hommes?
Mais ils sont là, je vous rassure. On les a pas supprimés. Non, effectivement, ma mère ma mère vit sur le domaine. Hein. Bon, maintenant, elle est quand même à la retraite. Elle a fêté ses 80 ans cette année, donc elle vérifie. Elle aime bien surveiller que tout soit en ordre. Après, on a des hommes. Hein. En tout, on est quatre femmes sur le domaine avec ma comptable. Et après, on a des hommes qui nous aident naturellement en cave, à la vigne. Non, je suis pas du tout féministe. J'aime travailler, j'aime m'entourer avec des personnes de confiance et je compte aussi sur les hommes pour m'aider à avancer et pour m'épauler au quotidien.
Et j'ai quand même l'impression que c'est une tendance, non, qu'il y ait de plus en plus de femmes vigneronnes.
Alors, de notre côté, c'était pas forcément une tendance. J'avoue que mon père a eu trois filles. Donc en fait, le choix pour la transmission, il n'y avait pas 36 000 solutions s'il voulait transmettre à ses enfants, puisque voilà, trois filles. Donc c'est vrai que ma sœur Isabelle, mon père a détecté chez elle très tôt qu'elle avait un très bon nez, un très bon palais. Donc elle s'est rapidement orientée vers des études de viticulture œnologie. Moi, ça a été un petit peu plus tardif, hein, parce que j'étais vraiment une amoureuse des livres et d'abord j'ai travaillé en librairie. Je suis revenue par la suite, justement, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que mon père cherchait un homme pour la suite. Et puis je lui ai dit, c'est vrai que là, j'ai fait mon petit côté féministe en disant, ce qu'un homme peut faire, moi, je peux le faire. Et donc, il m'a pris au mot et c'est moi qui ai repris, en fait, la direction de l'entreprise. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais là, c'était parce qu'on avait envie de poursuivre cette belle aventure familiale et c'était une envie de continuer ce que mon père a fait et voilà, de continuer à marcher dans ses pas.
Je trouve qu'on rencontre de plus en plus de vignerons. C'est pour ça que je me permettais votre cas particulier. L'autre tendance aussi, c'est les vins nature. Vous faites du vin nature.
Alors, on fait pas forcément des vins nature, parce que les vins nature, c'est vraiment des vins où on va pas rajouter de soufre. Nous, on va quand même rajouter du soufre à la mise en bouteille et au cours du processus de vinification, si besoin. Après, nous, on est en culture biologique et biodynamique.
Alors, d'accord.
Culture, c'est-à-dire qu'on va pas travailler avec des pesticides, avec des herbicides. On va vraiment respecter le vivant, hein, on va vraiment respecter la vigne. Et on va essayer de la rendre la plus forte possible par rapport à des maladies, par rapport à des contraintes naturelles. Mais c'est vrai que on continue à utiliser le soufre pour stabiliser nos vins au quotidien.
Bon, là on a parlé du Pinot Blanc, mais quels sont les autres cépages et les vins que vous proposez? Votre gamme?
Nous, en Alsace, on est généreux, hein. On a beaucoup de cépages, hein. Donc on a beaucoup de vins. Nous, on fait tous les cépages en Alsace. Alors bien sûr, en tête, c'est le cépage qui touche dans nos cœurs, c'est le Riesling, qui est le grand cépage rhénan, qui est un cépage avec beaucoup des belles acidités, beaucoup de droiture, beaucoup de minéralité, hein, compagnon parfait pour tout ce qui est poisson, tout ce qui est crustacé. Il y a les Pinot Gris. Les Pinot Gris qui sont un petit peu plus généreux, qui sont un peu plus sur la tendresse, qui sont plus terriens. Nous, on fait beaucoup de vins secs. Hein. Ça, il faut savoir, on se distingue un petit peu en Alsace. Justement, les Pinot Gris, les Gewürztraminer, c'est ce côté très extraverti, ils sont sur la rose. Souvent, on peut avoir des restants de sucre dans ces cépages-là. Nous, on les fait secs. Nous, on fait vraiment des vins pour accompagner les plats. On cherche à faire des vins vraiment sur l'équilibre et sur la finesse et l'élégance. Et jamais sur la lourdeur.
Si je vous ai appelé aussi, c'est pour une raison. Je crois que c'est un vin de la série Artiste qu'on trouve à Millau, au bar à vin Cépage, rue du Mandarouf. Et
oui.
C'est comme ça, en fait, que je vous ai connu, parce que je trouve intéressant, effectivement, que nos auditeurs et auditrices puissent goûter les vins dont on parle dans l'émission. On parlait aussi, parce que comme l'autrice vit à Québec, vous m'avez expliqué quelque chose d'intéressant que je ne savais pas. C'est que le vin et tous les alcools ne se vendent pas n'importe où au Canada.
Alors au Québec, c'est une province québécoise, en fait, au Canada de manière générale et au Québec, il y a des monopoles d'État, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver des cavistes, hein, comme en France, hein, où voilà, une personne est libre d'ouvrir sa boutique et de mettre les références qu'il aime, hein, tout simplement, au Québec. Donc il y a un monopole, et c'est le monopole qui va acheter les vins et qui va les distribuer dans ses propres magasins. Voilà, donc nous, on a aussi notre Pinot Blanc dans ce monopole qui s'appelle la SAQ et qui est le plus gros monopole du monde. Il y a une quantité, on peut trouver une quantité astronomique de vin avec beaucoup de choix. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec ce monopole. Et de toute façon, c'est un grand plaisir pour nous d'être au Québec parce que voilà, les Québécois sont toujours très sympathiques.
Voilà, donc on peut dire à Hélène Faradji, l'autrice. Je ne doute pas qu'elle va écouter cette émission, qu'elle peut effectivement donc trouver le Pinot Blanc du domaine Josmeyer à Québec.
Oui, tout à fait, le Pinot Blanc mis du printemps dans les magasins de la SAQ, et toujours avec une belle étiquette artiste. Donc c'est vrai que c'est un vin qui est toujours très apprécié justement pour sa joie de vivre en fait. C'est un vin qui a beaucoup de joie de vivre.
Merci Céline pour votre sympathie, votre jovialité, c'était bien.
Bah, merci beaucoup.
C'était chouette de vous avoir au téléphone. Et puis, j'ai rarement l'occasion d'aller en Alsace, mais j'espère
cas,
peut-être
si vous
passer
venez
un
en
jour
Alsace,
vous voir.
Pas pendant les marchés de Noël, hein, parce que là, c'est la folie. Donc, il faut venir après. La belle saison, c'est le mois de juin ou le mois de... Ouais, mais il y a beaucoup de monde à cause des ponts, mais juin, c'est un beau moment pour venir.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Nous tournons la page de ce cinquième chapitre du tome 3 de Polar Vin et Compagnie. Prochain rendez-vous avec l'association Cap Polar, c'est samedi 20 pour un atelier écriture au Créa. Pour notre sixième chapitre, dans deux semaines, une émission spéciale nouvelle au cours de laquelle les nouvelles primées lors du concours 2025 seront diffusées. Vous les avez peut-être déjà entendues en fin des chapitres précédents, sauf une, celle d'Olivier Rancan, Mauvaise passe à Millau, que vous découvrirez dans une version un peu particulière. De bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous de la part de toute l'équipe de Polar Vin et Compagnie. Et comme le dit l'acteur Alec Baldwin, les livres font d'excellents cadeaux parce que vous n'avez pas besoin de les brancher.
Méfiez-vous des cris d'Astra. Avec une bande de bras cassés pareils, pas étonnant que ça ait tourné à la béchamel infernale. Voilà ce que j'ai pensé avant de me retrouver, couché sur le sol, je ne sais où, ni depuis quand. J'ai même été étonné de mon trait d'humour. Ce n'est pas dans mes habitudes d'exprimer de la dérision. Maladroit, inculte, trop jeune sans doute pour savoir ce qu'il faisait et surtout ce qu'il risquait. Ils se sont rués sur moi, se sont disputés en me faisant tourbillonner. Tout ce que je sais, c'est que je suis tombée. J'ai crié. Et ils ont déguerpi en me laissant le dernier de leur bande. Je ressens encore dans mon corps la lourdeur de leur course pour s'éloigner de moi. Maintenant, j'ai froid. Pas étonnant, il gèle à pierre fendre. Je suis sale. Ma robe est abîmée. Elle est tachée de sang. À cet instant, je ne vois ni n'entends rien. Par contre, je ressens tout. Présence, émotion, impact de souvenirs violents. Mais je parle et je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Astra. Je suis née en Espagne, à Guernica plus précisément. Je suis amenée à voyager et je passe de bras en bras, de mains en mains, car je suscite la fascination des hommes violents. Je suis leur chose, leur propriété, leur passion. Ma beauté et ma froideur les rendent fous. Je reste néanmoins maîtresse du jeu, car au final, je n'appartiens à personne. Personne. Ancrez cela bien profondément dans votre crâne. Tout est violence en moi et autour de moi. Est-ce moi qui la suscite ou en suis-je la victime? Peu importe. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je porte malheur depuis que j'existe. C'est tout ce que je sais. C'est comme ça, c'est une évidence et rien ne pourra la changer. Comme les banshees irlandaises, quand je crie, j'annonce une mort imminente. Ma vie a commencé aux États-Unis, à New York. Il faisait froid, comme maintenant. Un homme m'avait acheté à Sutton Place, dans un Rockefeller Garden Apartment, transformé en chambre de passe. Ses bras avaient la douceur du cachemire, j'adorais ça. Ses mains étaient douces, mais moites. La peur et le désespoir les agitaient. Leurs mouvements étaient imprécis et j'ai dû aider cet homme pour aller au bout de notre rencontre. C'est le souvenir que j'en ai gardé. J'ai fait ce qu'il désirait et je crois l'avoir satisfait. Ensuite, je suis revenue au pays, à Madrid. Je ne me souviens plus comment. Je me rappelle cependant que c'était tendu, conflictuel. Le peuple se soulevait, la guerre faisait rage. Les bras sentaient la sueur, les mains étaient sales. Mais j'adorais cette période de colère et de soif de liberté où l'instinct de survie privait sur tout. J'étais chez moi, sur ma terre natale, au tempérament de feu. Je travaillais pour tout le monde, pour et contre la bonne cause. J'ai même croisé une femme, mais elle ne s'est pas attachée à moi. C'était le coup d'un soir. Les femmes ne peuvent être comparées aux hommes. Elles se protègent et puis se cachent pour agir dans l'ombre. Ce sont plus des sœurs que des amantes. Bref, j'étais utile. Je me sentais utile. Par après, j'ai parcouru de nouveaux chemins et en toute logique, je me suis retrouvée en Allemagne. J'y ai ressenti à nouveau le plaisir de la Grande Guerre sur tout le territoire. Par contre, j'y ai souffert. L'étoffe des uniformes était douce, mais les mains des soldats trop brutales à mon goût. La folie de leurs dirigeants me devenait intolérable. C'est durant cette période que j'ai commencé à me rebeller, à ne plus vouloir me soumettre. Cela s'appelle de la prise de conscience, de la maturité, peut-être. Alors, à Berlin, pour tourner la page de ma vie servile, j'ai tué un homme important en faisant croire à un suicide. Il avait des mains d'artiste qui avaient perdu leur âme. Après, j'ai erré pour me retrouver ici. Cette nuit des bras cassés fut la plus terrible de ma vie. La brutalité de ces hommes m'était coutumière. Cependant, l'un d'eux m'a fait découvrir l'éventualité d'une autre vie. Ah, je n'ai pu me maîtriser. Il est juste à côté de moi. Je perçois la lourdeur de sa main sur ma bouche. Elle sent la poudre et l'odeur âcre du sang. Les doigts sont rigides depuis longtemps et la paume est froide. Cette immobilité ne présage rien de bon. L'homme est poussière et retournera à la poussière. Je sens le souffle du vent. Les feuilles mortes font leur travail de fossoyeur. Comme de coutume, la mort m'accompagne au bout de l'aventure. Une de plus, je vise toujours la tête et ne rate jamais ma cible. Mes derniers souvenirs sont gravés dans la balle plantée dans la cervelle de cet homme qui me touche dans tous les sens du terme. Lui, il m'avait d'abord prise avec tant de délicatesse et de sensibilité. Ses bras en flanelle m'avaient caressée et réchauffée. Sa main était si chaude, ses doigts étaient si doux, si tendres que j'avais fondu de plaisir. Mes anciens amants ne m'avaient jamais traité avec autant de respect. Leur regard ne m'avait jamais réservé autant d'attention. Cet homme, qui ne bouge plus maintenant, m'avait soupesé avec expertise et m'avait embrassé avec ses mains. Ce plaisir m'avait fait comprendre ce que c'était d'être vivante. J'avais eu, pour une fois, envie d'y croire. Croire en cette vie à laquelle j'aspire tant. Vous savez, une vie au bout du calvaire. Une suite de jours faits de douceur, d'insouciance. Une vie ne me forçant plus à me soumettre à toutes les volontés les plus viles et abjectes. Une vie où j'aurai le droit de me reposer. Une vie semblable à ma robe noire et argent. Une vie voluptueuse, rangée dans un écrin de velours, et non pas sous la lampe rouge d'une vitrine. J'ai senti de la douleur, la douleur d'un frottement métallique attaquant ma peau ferme. Immédiatement, j'ai été alertée. Mais quand j'ai perçu la forme d'une lettre, puis d'une autre, pour former une phrase, j'ai deviné que cet homme désirait rehausser ma beauté naturelle. Il a poursuivi sa tâche, une de trop. J'ai reconnu les initiales d'un nom. Cela m'a rendue folle. Ma déception était telle que je ne pouvais plus subir cette torture plus longtemps. Incapable de m'enfuir, je me suis mise à lancer l'impact de ma voix à plusieurs reprises. Et l'homme qui voulait me posséder s'est arrêté de me tatouer. J'ai perçu de la surprise. Pour la première fois, j'ai ressenti de la tristesse. Sa main s'est mise à trembler et m'a projetée violemment, mue par la stupeur. Je suis tombée. Quand ma crosse noire a touché le sol, j'ai visé impulsivement le front et la balle a atteint son but. L'habitude étant ma seconde nature, je n'ai pas failli et le regret m'a submergée. Je m'appelle Astra, modèle 300, exemplaire 24541. Je suis née en Espagne en 1922 à Guernica, dans la fabrique Esperanza y Unceta. Je suis une arme de poing, belle et rutilante. J'ai de la classe et du tempérament. Pourtant, mon exemplaire est maudit. J'ai accumulé dans ma robe de métal le malheur d'un homme qui a tout perdu lors du crash boursier en 1929. Je suis passée entre les mains de nationaux et de républicains pendant la guerre civile espagnole de 1936. Je ressens encore les tressautements haineux des nazis qui m'ont manipulée lors de la Seconde Guerre mondiale et j'ai absorbé toute la haine de leur fureur. Tout cela est vain. Les hommes n'apprennent rien. Je repose sur le sol, je ne sais où, depuis je ne sais quand. Et je rêve à cette vie que j'aurais tant aimé avoir. C'est une bande d'incapables qui m'en a fait prendre conscience. Un poète était parmi eux et je l'ai tué. Peut-être faudrait-il que je n'aspire plus à l'amour des hommes. Peut-être faudrait-il que la pluie rouille mes entrailles, que je perde mon éclat, que la terre me recouvre et qu'on m'oublie à tout jamais. Mais les malédictions sont coriaces et puis mon envie de vivre est intense. Comme les banshees, je suis éternelle et on m'a créée pour tuer. Toi qui lis mon histoire, seras-tu le prochain qui me trouvera? Si tu es femme, je ne m'en fais pas trop. Avertis, tu en vaux quatre, et tu passeras ton chemin. Mais si tu es homme, prends garde, car tu n'en vaudras que deux après avoir lu mon histoire. Si tu t'arrêtes, tu me reconnaîtras en lisant ces vers tatoués sur ma culasse nickelée. Vienne la nuit. Sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Sache qu'il reste une balle dans mon chargeur.